Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, au fil des pages, je vous invite aujourd'hui à découvrir une femme exceptionnelle, méconnue d'ailleurs, Ide de Boulogne, que nous allons retrouver presque vivante à ce micro grâce aux recherches de Jean-Pierre Diques, président de la Société académique du Boulonnais et membre de la Commission d'histoire et d'archéologie du Pas-de-Calais. Jean-Pierre Diques, bonjour.
Bonjour.
Je devrais d'ailleurs dire docteur Diques,
oui,
car vous êtes docteur en médecine, voilà. Mais vous avez tant écrit et publié tant d'ouvrages sur votre région qu'on est en droit de considérer que vous êtes aussi écrivain.
Oui, tout à fait.
J'ai peur même que votre
écrivain
régionaliste. Mais en tout cas, votre ouvrage qui vient de sortir, Sainte Ide de Boulogne, publié aux éditions de Paris, a été remarqué par les académiciens. Et c'est de cet ouvrage que nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes passionnément attaché à votre Boulonnais natal. Où se trouvent les frontières du Boulonnais?
Alors, le Boulonnais est une région particulière qui correspond d'ailleurs à sa géologie. C'est ce qu'on appelle une boutonnière. Et historiquement, sociologiquement, c'est une région qui est complètement différente des autres, qui se trouve à la limite de la France, de la Flandre, pardon, de la Picardie et de l'Artois. Et elle a toujours été une région particulière avec ses contes et son histoire tout à fait particulière aussi.
Alors, je suppose que sa capitale, si l'on peut dire,
alors,
c'est
la
Boulogne,
capitale, c'est
donc
Boulogne,
très proche de l'Angleterre.
C'est tout à fait proche de l'Angleterre et c'est une des raisons pour laquelle ça a sa singularité, à cause précisément des contacts qui existaient régulièrement par Boulogne avec l'Angleterre, mais c'est le lieu de passage de toutes les invasions, Jules César, Napoléon, ce sont ces grands événements qui sont passés à partir de Boulogne et non pas à partir de Calais tout proche ou Dunkerque ou Abbeville.
Donc Boulogne, c'est ce grand port, cette grande ville.
C'est le premier port de pêche.
De toute l'Europe,
oui.
Mais voilà, il faut le rappeler, peut aussi s'honorer d'avoir une sainte qui porte son nom, Sainte Ide de Boulogne.
Ide de Boulogne, oui. Ou Ida aussi.
Ou Ida, oui, Ite, même, j'ai vu dans
voilà,
votre livre qu'on pouvait changer son prénom. Donc, votre ouvrage publié aux éditions de Paris, je vais rappeler l'adresse des éditions de Paris qui ne sont pas forcément un très grand éditeur, comme on a l'habitude ici, 13 rue Saint-Honoré, 78 000 Versailles. Alors, cet ouvrage, évidemment, dès qu'on en ouvre la page de titre, on voit Sainte Ide de Boulogne, mère de Godefroy de Bouillon. Alors tout de suite, ça va mieux. On s'est dit qu'on la repère.
Voilà,
quel repère
l'histoire
chronologique pour la situer?
Eh bien, évidemment, elle est née en 1050. Nous sommes juste avant la grande période des croisades de folie. Et il mourra assez rapidement. Et au moment des croisades, c'est son fils qui s'appelle Guillaume le Roux qui lui succédera. Donc c'est le deuxième roi d'Angleterre. Quant au troisième, c'est Beauclerc. Henri Beauclerc,
voilà.
On change de génération. C'est lui qui se mariera avec la petite fille de Ide de Boulogne. Vous voyez,
alors,
il y a beaucoup de personnages.
Si, voilà, si je vous ai bien lu aussi, Jean-Pierre Diques, donc dans votre ouvrage Ide de Boulogne, tout ce que vous venez de raconter vaudra à Ide de Boulogne de figurer sur la tapisserie de la reine Mathilde, celle de Bayeux, n'est-ce pas?
Oui, c'est pas elle-même, c'est son mari.
Voilà.
Sur la tapisserie de Bayeux, d'ailleurs, le Mour pose une question très intéressante, à savoir qui a fait cette tapisserie de Bayeux. On dit toujours la reine Mathilde, c'est-à-dire
oui,
la femme de Guillaume le Conquérant, mais on est un peu pris par les événements parce qu'elle n'a pas eu le temps chronologiquement de faire une broderie comme ça de 34 mètres. Ça semble assez étonnant et certains auteurs se sont posé la question de savoir si c'était pas Mathilde, la petite fille de Ide, qui avait réalisé une partie de cette tapisserie.
Ou alors on dit elle fit la tapisserie comme on dit César fit la guerre, elle l'a fait faire avec des petites mains quand
César,
même.
César Quentin fait shit, oui, c'est ça, voilà. Alors, oui, quelle est la question que vous aviez posée?
Alors, la question maintenant que je vous pose, donc on a vu le roi de France, Philippe Ier, les rois d'Angleterre de l'époque de Ide de Boulogne,
oui,
et puis il nous manque l'empereur
alors,
de Germanie.
Il y a plusieurs personnages qui sont très importants, c'est le comte de Flandre, qui est le suzerain du comte de Boulogne, qui participera aussi à la première croisade, on l'appelait l'épée des chrétiens, et alors ensuite, du côté de au moment de la naissance de Ide, c'est l'empereur Henri II de Germanie, puis l'empereur Henri III, puis l'empereur Henri IV qui a été concerné par la fameuse querelle des investitures avec l'affaire de Canossa.
C'est-à-dire il est allé s'agenouiller dans la neige, je crois.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire
le pape.
Vous voyez, à partir du, c'est l'événement important, c'est Étienne IX, le pape Étienne IX, qui était l'oncle de Hyde, qui le premier s'est élevé contre le fait que les papes étaient nommés par les empereurs d'Allemagne depuis Charlemagne. Ça lui coûtera la vie parce qu'il sera assassiné à cause de ça. Bon. Et c'est ce pape, chose qui est assez étonnante, qui proposera que le pape soit élu non pas par la Vox Populi italienne ou par les grands souverains, mais par un collège de cardinaux.
Un concile.
Et on est habitué à cette idée-là. Naturellement, voilà. Et c'est donc un personnage Étienne IX qui est très très important. Et c'est l'oncle de Hyde.
Alors un mot, parce que j'ai découvert un mot dans votre ouvrage sur Saint-Hyde de Boulogne. J'ai découvert le mot Grenon, puisque son mari, on l'appelait Eustache. Au grenon.
Du latin,
ça veut dire quoi, grenon?
Alors, du latin gernones, qui veut dire moustache. Le mot est utilisé en picard. J'ai un spécialiste. J'ai fait le plus gros dictionnaire picard de tout le domaine picard, et ça veut dire moustache, car il avait de gigantesques moustaches dont il faisait un soin de tout à fait important et particulier, et il est resté sous ce titre-là dans l'histoire.
Alors, quand Hyde l'épouse, donc, puisque vous avez dit qu'elle était née en 1040, quand elle épouse Eustache II au Grenon en 1057, elle a
17 ans. Voilà.
Et d'ailleurs, votre livre s'ouvre sur ce chapitre,
cheminement
qu'elle va faire donc de son pays natal jusqu'au comté de Boulogne.
C'est
alors,
ça.
Racontez-nous un tout petit peu le château où elle est née.
Alors, Eustache au Grenon lui-même était veuf de Goda, qui était la sœur du roi d'Angleterre. Hein. C'est un personnage donc déjà très important, puisqu'il est marié à la sœur du roi d'Angleterre, et en revenant une fois de Rome, où il était allé voir son oncle, eh bien, il a l'oncle d'Hyde, il passe devant le château de Bouillon. Nous sommes dans les Ardennes, un site absolument superbe, c'est un méandre de la Semois, qui est le fleuve qui passe à cet endroit-là, ce sont d'immenses forêts, et il tombe, il m'a amoureux de cette très belle jeune fille, et il revient à Boulogne, envoie des messagers, et bien sûr, on ne peut pas résister à un personnage de cette importance-là, qui était comte de Boulogne et comte de Lens aussi, et qui avait un passé déjà fort connu et fort apprécié des gens de l'époque. Alors ça ne pose pas de problème, mais la première chose qui frappe Hyde quand elle arrive à Boulogne, bien sûr c'est la fête comme on peut imaginer, c'est l'état de délabrement à la fois des églises et aussi la pauvreté des pêcheurs. Les pêcheurs, dans toute l'histoire de l'humanité, et surtout à Boulogne, ont toujours été pauvres. Et c'est de elle qu'on tient la fameuse maxime en patois boulonnais que vous m'excuserez de vous dire. À chacun son pain et son hareng. Ce qui veut dire à chacun son pain et son hareng.
Son hareng,
Nourriture quotidienne des boulonnais que l'on sale, etc. Bon. Alors, c'est une femme qui va être une mère de famille extraordinaire. Elle va élever ses enfants le plus possible, elle va les allaiter aussi, c'est très important à cette époque-là. Et puis, c'est une femme pieuse, bien que ça soit une femme très belle, on le sait parce que Guillaume de Tyr, qui est l'historien de la première croisade, l'a décrite, c'était une grande blonde religieuse. C'est un homme qui est extrêmement pieux et on lui reprochera toute sa vie, parce que pendant que les croisés festoyaient, lui était en prière et le rôti arrivait un petit peu froid sur la table quand il se décidait à arrêter ses oraisons.
Et en plus, il était chaste, vous dites,
d'ailleurs,
il ne s'est pas marié. Moi, j'ai découvert un peu le personnage. Je croyais que c'était un guerrier un peu rude. Mais non, c'était un homme très pieux.
Pas du tout.
Donc, encore un intérêt de lire votre livre, Jean-Pierre Dicquez, Hyde de Boulogne, découvrir Godefroy de Bouillon.
Voilà. Et alors, découvrir Godefroy de Bouillon. Quant au troisième, c'est Baudouin, donc d'Edès, qui lui est un personnage ambitieux. Il part pour la croisade pour se tailler des propriétés. Et il devient roi d'Arménie, puis roi de Jérusalem. Donc il réussit et c'est lui qui assoira la conquête de Jérusalem parfaitement, dans ce sens que c'est un diplomate qui sait très très bien s'habituer aux circonstances dans lesquelles il est, et il crée des alliances avec le les émirs, émirs de Tripoli, émirs de Césarée, et il s'en fait des alliés. Il s'en fait des alliés, ce qui lui permet d'être tranquille face à deux blocs gigantesques que sont la Turquie d'un côté, les Seljoukides, et les Fatimides qui eux sont les Égyptiens, et en plus l'émir de Damas. Donc quand on y pense, cette construction artificielle qu'est le royaume franc chrétien de Jérusalem n'aurait pas dû résister une journée. Hein, surtout qu'il y avait très peu de chevaliers, les gens repartaient après la croisade, et c'est Baudouin qui a réussi à faire cet équilibre là qui sera malheureusement dispersé par ses successeurs.
On voit que cette époque vous est extrêmement familière.
Ah oui,
et alors pendant que ses fils étaient donc en croisade là-bas, ils envoyaient à leur mère Ide de Boulogne, qui pendant ce temps-là était devenue veuve et continuait à gérer le comté, ils envoyaient des reliques. Vous avez toute une partie de votre ouvrage aussi sur l'importance des reliques, parce qu'à notre époque, on ne comprend plus très bien pourquoi on avait ce culte des reliques. Et vous expliquez ça fort bien.
Oui, alors d'abord, la relique principale concernait un petit morceau du linge qui avait servi à essuyer le Christ quand il avait été descendu de la croix. Et c'était une relique qui donc appartenait à Saint Joseph d'Arimathie et qui avait été qui s'était passée de génération en génération depuis la mort du Christ, et qui était détenue par les chrétiens orthodoxes, c'est-à-dire les Melkites, les Syriaques, etc. Donc c'était des chrétientés qui étaient installées à Jérusalem et qui, pour remercier les Francs de les avoir délivrés du joug que pouvaient représenter les musulmans, ont donné des reliques, et notamment à Godefroy de Bouillon. Et le frère aîné de Godefroy de Bouillon, Eustache, quand il revient avec un certain nombre de reliques.
Voilà.
C'était les plus beaux présents qu'ils pouvaient faire, d'abord parce que leur mère était extrêmement pieuse, ensuite il fallait des reliques pour les fondations religieuses, parce qu'on ne conçoit pas une fondation religieuse ou une église sans une relique. Et ensuite, la relique, c'est elle qui donne le pouvoir spirituel et temporel. On disait des Boulonnais qu'ils n'acceptaient jamais de se mettre à genoux devant quiconque, y compris les princes. Ce qui était extraordinaire pour cette époque-là. Ça méritait, ce tel état de fait aurait pu leur mériter d'avoir la tête coupée. Eh bien, devant personne, sauf devant les porteurs de reliques. Là, ils se mettaient à genoux.
Alors, Ide de Boulogne, justement, c'est une femme, comme vous l'avez déjà souligné, très pieuse, qui a une grande foi. Elle fonde beaucoup d'abbayes.
Oui.
C'est une de ses œuvres, c'est cela.
Oui, alors, elle va fonder la cathédrale de Boulogne.
Mm-hmm.
Elle va fonder la cathédrale de Lens, qui sont des cathédrales donc qui étaient de style roman.
Quand vous dites qu'elle va fonder la cathédrale, c'est-à-dire qu'elle va demander au pape d'y installer un évêque.
La cathédrale de Boulogne avait brûlé, donc elle n'existait plus.
Oui.
Hein. Elle bâtit la cathédrale, comme on disait tout à l'heure, hein. Et elle bâtit deux cathédrales, celle de Lens et celle de Boulogne, qui n'existaient pas. Bon. Alors ensuite, le nombre de monastères qu'elle fait édifier est absolument impressionnant, puisqu'il est de l'ordre de 17. Vous imaginez un petit peu, ça veut dire que, attention, c'est pas 17 dans le Boulonnais, hein, c'est 17 qui vont jusqu'en Allemagne pratiquement, mais il y en a un certain nombre dans le Boulonnais, comme l'abbaye du Hois, la Capelette, Rumillé, etc. Andre, bon. Donc il y a, elle bâtit plutôt dans le Boulonnais, effectivement. Ce sont les églises, et puis ce sont surtout les maladreries. Elle fonde des maladreries, c'est-à-dire des endroits où on soigne les pauvres lépreux, et aussi des hôpitaux. Ça, c'est son devoir principal, et c'est ce qui en fera une sainte.
Ce qui en fera une sainte. Alors voilà, oui, parce que la sainteté n'est pas fondée, comme vous le dites aussi, parce que votre livre, Ide de Boulogne, développe beaucoup cet aspect des critères de la sainteté. Ce ne sont pas les miracles, mais il se trouve qu'elle a fait beaucoup de miracles, à la fois de son vivant, enfin des miracles qui sont rapportés en tout cas, et puis après sa mort.
Oui, alors il est évident que ces miracles, c'est assez difficile d'en apprécier
la
valeur.
On n'est pas dans la même époque époque historique.
Surtout,
oui, oui.
Voilà, c'est ça, autant de temps après. Bon. Mais d'abord, il faut savoir qu'à cette époque-là, les saints, ça n'existe pas. Il y a les Beatus, qui sont les bienheureux. Hein. Ça n'est qu'à partir de...
Le 14e, oui, qu'on les a développés. Oui.
Le premier saint qui va être officiellement canonisé par Rome, c'est l'empereur Henri II en 1147.
Voilà, mais la procédure telle qu'on la connaît aujourd'hui, voilà, elle est plus tardive.
Elle est beaucoup plus tardive. Vous voyez, donc les choses se sont fait lentement et il n'y avait qu'un seul degré, c'est-à-dire il y avait le Beatus qui était le saint. Alors évidemment, il y a un certain nombre de guérisons miraculeuses qui sont imputées à Ide de Boulogne et à son culte, un petit peu comme on peut voir actuellement avec le pape précédent qui vient de mourir. On dit, bah oui, moi j'ai été miraculé, etc. C'est comme ça que les choses se passaient.
Donc, Ide de Boulogne, c'est l'ouvrage de Jean-Pierre Diques, Ide de Boulogne, sainte Ide de Boulogne, mère de Godefroy de Bouillon. Je vous en recommande la lecture. Il est paru aux éditions de Paris, qui se trouvent à Versailles, contrairement à ce que leur nom indique. Ide de Boulogne, donc pour découvrir à la fois la comtesse, l'épouse, la mère de fils célèbre roi de Jérusalem, la sainte.
Et les grands événements de l'époque.
Et aussi la continuation de son culte, car les Boulonnais, dont vous chantez les louanges, les Boulonnais ont encore aujourd'hui un grand culte pour Ide de Boulogne.
Eh bien, ce culte a repris pratiquement au début du XXe siècle, car les reliques avaient été enlevées, elles avaient disparu, elles avaient été dans un premier temps peut-être volées, puis récupérées par la famille de Lorraine, ont transité au moment de la Révolution à Paris, et elles sont actuellement à Bayeux, où ce sont les bénédictines qui les ont, mais elle a été, je veux dire, officialisée, c'est-à-dire que il existe ce qu'on appelle un ordinaire. Dans la messe, il y a une fête de Saint-Ide qui se situe le 13 avril.
13 avril. On aurait dû faire notre émission le 13 avril. Sans doute sera-t-elle diffusée avant.
Peut-être.
Mais grâce à vous, on aura mieux découvert ce personnage tout à fait fascinant.
Encore un dernier mot
oui,
aussi,
je vous en prie.
Que vous me permettrez de dire, c'est que le nom de Ida est actuellement le nom qui est le plus donné dans la totalité des pays nordiques et qu'il est un nom extrêmement commun tant en Russie que aussi en Allemagne.
Donc on peut appeler ces petites filles
Ide ou Ida
en souvenir de Ide de Boulogne. Eh bien merci Jean-Pierre Diques et j'espère que vous aurez une autre opportunité de publier un ouvrage car on vous lit avec beaucoup d'intérêt. On apprend beaucoup de choses de cette époque qui pour nous tout de même commence à être un peu lointaine.
Sûrement, oui.
Donc merci infiniment.
Merci, au revoir.
Et Canal Académie était heureuse de vous recevoir.
Merci.